de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Je suis en compagnie d'Yves Gourina, un organiste qui est aussi professeur de physique et structure. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Nous allons aujourd'hui aborder le thème de la composition à travers la transcription. C'est une adaptation qui permet de montrer effectivement une composition de manière différente. La transcription peut être une réduction pour piano ou une orchestration. La transcription peut être vue aussi comme la notation d'une œuvre musicale sous une autre sorte d'improvisation, par exemple, ou une musique de tradition orale. Donc on peut retranscrire aussi des événements musicaux. Et cela permet de conserver aussi et de réinterpréter les mélodies. Dans un premier temps, cela implique évidemment une modification plus ou moins importante de l'œuvre si on retranscrit les mélodies. Qu'est-ce que pour vous la transcription, Yves ?
Alors, je voudrais en préambule dire que le terme « réduction » est peut-être un peu réducteur, si j'ose dire. Il s'agirait plutôt d'une translation au sens anglais, c'est-à-dire d'une traduction. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que nous avons exactement le même problème. Quand on reçoit un texte biblique en grec et qu'il faut le traduire en français, il y a un problème de traduction qui n'est pas une réduction, qui est la transposition, quelque part, dans une autre culture, un autre génie, une autre langue. Voilà. Et bien là, il s'agit d'une œuvre qu'on va déplacer, translater, presque au sens mécanique, non, au sens philosophique, au sens musical, d'un instrument ou d'un ensemble à un autre. Alors, c'est une aventure absolument passionnante. Et pour moi, il y a deux façons de voir les choses qu'on pourrait résumer par le mot « apprendre », qui, c'est très rare, en français, est un verbe moins riche qu'en anglais. Il y a « to teach » et « to learn ». Alors, la transcription a d'abord été utilisée « to teach », c'est-à-dire à enseigner, et à, quand on n'a pas un orchestre sous la main, c'est vrai, et qu'on a un clavecin, c'est quand même plus facile de le jouer sur le clavecin que sur l'orchestre. Donc, il y a cet aspect pédagogique. Mais on sait très bien, vous savez, je ne vais pas m'étendre sur ma vie professionnelle, mais la moitié de mon métier, en dehors d'être directeur de recherche, je suis professeur des universités, et on partage évidemment, et je m'aperçois de plus en plus qu'on learn beaucoup en teachant, en bon français. C'est-à-dire que quand on enseigne, on apprend énormément pour soi également. Et donc je pense que la transcription a aussi cet effet-là de s'approprier l'œuvre. Et d'ailleurs, en italien, les grands transcripteurs, je prends Walter par exemple, Johann Gottfried Walter, il parle de concerto de Corelli ou d'autres italiens, appropriato per organo, approprié. Et donc c'est une appropriation de l'œuvre. Et donc c'est beaucoup plus qu'une réduction.
Quelles sont les différentes étapes que l'on peut avoir dans une transcription par exemple ?
Alors, la première étape, c'est qu'il faut aimer l'œuvre. Il faut l'aimer, il faut se l'approprier de l'intérieur, c'est-à-dire l'écouter. De toute façon, dans la vie, d'une manière générale, il faut écouter. Il faut commencer par comprendre ce que le compositeur a voulu exprimer, comprendre le message philosophique qui est derrière. Il peut y avoir, par exemple, une légende, ou il peut y avoir une parabole, le symbole de l'eau, ou des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on se l'est approprié, il faut le retraduire avec son corps, oui, je dis bien avec son corps, dans l'instrument auquel on le destine. C'est plusieurs étapes, puis après, il y a l'incarnation.
Donc, il y avait les traditions orales, on transcrivait effectivement à l'écrit les mélodies, ou alors on le transcrivait de manière orale de génération en génération, mais à l'époque baroque, notamment Antonio Vivaldi a oui. été l'initiateur pour la transcription.
Alors, il était lui-même transcripteur, un grand transcripteur, mais il a aussi été transcrit. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Et évidemment, le plus grand transcripteur de Vivaldi que nous connaissons, c'est Johann Sebastian Bach lui-même. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand Bach retranscrit Vivaldi, c'est très étonnant, ça devient du Bach. Pourtant, c'est du... Et d'ailleurs, s'il y a un BWV, vous voyez, il n'hésitait pas à le présenter comme la transcription, comme une œuvre elle-même du transcripteur, ce qui est assez extraordinaire. Il y a un exemple. Alors, je peux donner l'exemple du concerto en ré mineur, qui a d'ailleurs été à l'origine d'une polémique parce que il semblerait qu'un de ses fils ait voulu, s'approprier cette composition, mais on a retrouvé la signature de Bach sous la signature de son fils. Le concerto en ré mineur de Bach pour violon, alors c'est BW 596. Ce concerto-là, alors est tout à fait remarquable parce qu'il a été écrit pour les cordes et Bach l'a transcrit pour l'orgue et on peut le jouer au piano. Alors, c'est dire l'universalité de la transcription. Alors, je vais prendre l'exemple du siciliano que Bach a appelé largo e spiccato, en bon français, vous voyez, qui dit bien ce que ça veut dire. C'est un largo très délicat. C'est une sicilienne extraordinaire. Et on pourrait croire que de toute éternité, Vivaldi l'a écrite non pas pour le violon, mais pour l'orgue, ou pour le piano, ou pour le hautbois. Et c'est ça la force de la musique, c'est que finalement, quel que soit le vecteur, elle est porteuse, j'oserais dire, de l'amour qui est derrière.
Nous allons écouter cet extrait.
Alors oui, et ce serait intéressant qu'on l'entende dans une version pour piano, car on pousse le raisonnement jusqu'au bout avec l'instrument à percussion. Le piano est un instrument à percussion, je le rappelle. Le plus universel qui existe, sur lequel on peut jouer aussi bien Duke Ellington que Vivaldi.
Qu'apporte la transcription justement pour l'œuvre? Est-ce qu'on peut perdre quelque chose? Est-ce qu'on peut perdre des couleurs sonores, des volumes? Que le compositeur voulait dire dans son œuvre?
Alors pourquoi voulez-vous qu'on perde quelque chose? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la réduction. On ne perd pas forcément parce que finalement on va y apporter quelque chose de merveilleux qui est un point de vue différent. C'est-à-dire qu'on a l'œuvre de l'auteur, ça elle est incontestable, mais il y a la résonance. j'oserais presque dire la résonance holographique, du transcripteur, qui est aussi un autre musicien. Et finalement, c'est une aventure assez merveilleuse.
Mais initialement, l'œuvre est composée pour un instrument. Oui. Le fait de l'adapter, il y a quand même des changements.
Oui, mais ça n'est pas une trahison. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y a des évolutions, il y a des changements. Ben, vous savez, dans la vie, les choses ne sont pas statiques. On peut raconter une histoire de plusieurs façons. Alors, je vais prendre exprès une histoire qui n'est pas religieuse. Je prends l'Odyssée, par exemple. Il y a plusieurs façons de la raconter. Et d'ailleurs, il y a plusieurs façons de la traduire. Je prends, par exemple, la traduction en vers de Victor Bérard. Bérard est un grand littérateur qui a traduit l'Odyssée, qui était en grec, en vers en grec, en alexandrin. Il l'a traduit en alexandrin en français. Ça devient presque une œuvre de lui, mais c'est magnifique. Et pourtant, Homère est toujours là. C'est un peu le mystère de la transcription.
En parlant d'histoire, donc, on a des poèmes symphoniques qui ont été à l'origine aussi d'énormes transcriptions pour orgue ou pour piano.
Oui, oui.
Donc effectivement, on part d'abord d'un texte écrit pour le retranscrire en musique, puisque c'est la musique descriptive. Donc il faut trouver du figuralisme à l'intérieur d'un texte littéraire.
On ne part pas forcément d'un texte écrit. On peut partir d'un mythe, on peut partir d'une histoire, d'un concept.
Alors, il y a quand même quelque chose, déjà une légende.
Bien sûr, une légende quelque part. Alors Liszt était un grand légendeur, si j'ose dire. Et effectivement, alors on peut citer un exemple tout à fait qui plaisait beaucoup dans les concerts qu'il donnait, Liszt. Hein, qui est l'exemple des poèmes symphoniques. Bon, il y a les préludes, mais il y a aussi Mazeppa. Alors Mazeppa était un héros hongrois qui avait été attaché sur le dos d'un cheval au galop. Et Liszt a développé aussi bien une version orchestre qu'une version piano. Il n'a jamais vraiment pu choisir entre les deux, d'ailleurs. Mais la version piano est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a les doigts de Liszt. Je dirais qu'on voit le cheval qui galope quand on entend la version piano de Liszt.
De toute manière, un compositeur, Berlioz aussi, a composé pour orchestre.
Mais bien sûr.
Et aussi des diminutions pour piano. On a différentes
versions.
Pourquoi
toujours diminutions ? Excusez-moi, je vous y reprends, ce ne sont pas des diminutions, ce sont des adaptations, ce sont des appropriations.
Oui, donc on peut dire qu'il y a quand même quelque chose, si on n'a pas un grand orchestre et qu'on le met dans un instrument, ça montre quand même une petite intégration qui est différente.
Mais
donc
c'est,
en fait,
mais
au
c'est
lieu
magnifique.
Que ce soit, voilà. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose qui est enrichi
puisque vous me
de
cherchez vraiment
sur les timbres.
Puisque vous me cherchez vraiment, vous allez me trouver. En fait, la transcription, c'est de la transmission. Quelque part. C'est-à-dire que, vous savez, je prends un ouvrage, un livre, par exemple, vous pouvez lire le livre, très bien, vous vous installez dans une chaise longue et vous lisez le livre. C'est un dialogue entre le littérateur et le lecteur, très bien. Mais vous pouvez aussi l'enseigner, le partager, j'oserais même dire l'aimer. On est presque dans le cercle des poètes disparus, là. C'est-à-dire qu'il s'agit, vous voyez, dans la transcription, de montrer comment le transcripteur, l'auteur, arrive à aimer l'œuvre et à partager cet amour de l'œuvre.
Il y a quand même parfois un écart entre l'intention du compositeur sur l'œuvre réelle, parce qu'après, il faut faire quand même des choix dans
l'enregistration. Alors, il peut y avoir, vous avez raison, il peut y avoir un delta, il peut y avoir un écart, mais ça ne peut pas être à 180 degrés. C'est-à-dire que, bien sûr, ça veut dire tout simplement qu'on peut avoir des nuances, mais vous savez, c'est ça, la vie, c'est ça. Excusez-moi, mais on peut raconter la même histoire extraordinaire de quatre façons différentes, légèrement différentes, mais qui disent la même chose et qui se confirment mutuellement. Je prends un exemple au hasard, Jean, Matthieu, Marc et Luc, qui racontent le même message prodigieux, transcendant, avec quatre façons un petit peu différentes de le traduire, de le partager. Non, de le vivre. Parce qu'en fait, le secret de la transcription, c'est que c'est le partage de la vie de l'œuvre.
Et donc, vous souhaitez nous faire entendre Mazeppa, ce poème symphonique qui a été écrit par Liszt et une version pour piano ?
Oui, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de transcendant, dans tous les sens du terme. Il y a la technique transcendante de Liszt et puis la transcendance de la musique.
Donc la transcription, c'est avoir un œil différent sur un point de vue différent sur une œuvre.
Mais sur la même chose.
Merci beaucoup Yves, à bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
Merci Blandine, à bientôt.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.